Allez, monsieur, là, c'est parti, c'est nous, c'est dimanche matin, évidemment, c'est 11h et c'est
Sport Épique.
Sport Épique, Fred, tu m'as l'air complètement là à fond. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Là,
eh bah, je sais que je suis en mission là. Faut que je sois en très très grande forme parce que fin d'année, on a dit qu'on gardait que les meilleurs.
Que les meilleurs. Ça tombe comme des mouches autour de nous. Mais toi, tu es là. Toi,
ouais,
tu es
toujours là. Fidèle.
Toi,
ouais,
t'es
bien
là.
Sûr.
Formidable, t'as bravé le froid, t'as bravé la nuit, t'as du courage, mon ami, tu es là, c'est top, on est là pour une heure de sport épique et on parle tout de suite de notre chère Mayenne, puisque la Mayenne, la semaine dernière, il y avait un combo magique à faire sur Laval.
Terre de sport.
Qu'est-ce qu'on proposait sur tout ce week-end à Valois, à la fin?
Bah déjà, dans l'originalité, hein, puisque tournoi de pelote basque, le tournoi d'hiver.
Ouais, ouais, c'est
formidable.
C'est comme les grands couturiers, on a deux collections voilà. Dans l'année. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé, cette histoire?
Eh bien, alors, quand on commençait par la pelote le samedi, toute la journée, oui. Eh bien, belle organisation, ouais. Très belle organisation.
Oui,
je connais un peu l'organisateur, franchement.
Certainement.
Deux belles poules, des belles équipes, des équipes de Tours, des équipes de Bretagne, donc
ouais.
Côté de Rennes. Deux
ouais.
Nouveaux joueurs, parce qu'on a découvert notamment un joueur breton.
Exactement.
Un ouais. Joli potentiel.
Sacrément, ouais.
Donc,
sacrément.
Non, de belles parties, une super bonne ambiance. Donc non
ouais,
pour moi c'est
sport,
une réussite sportive.
Ça vaut le coup. Alors c'est pas une réussite on va dire mondaine ou au niveau du monde que l'on peut voir, mais c'est une réussite pour ceux qui le pratiquent et ceux qui ont envie de le pratiquer. Et les portes vous ont grandes ouvertes, messieurs dames, c'est deux fois par an et c'est très très sympa à jouer. On dit là, on a fait des découvertes. On est en lien avec les gars de Paris, on est en lien avec les gars de Bayonne. Là ça parle de plus en plus de venir. C'est sympa que ça s'ouvre comme ça.
Ouais ouais, et puis franchement les joueurs ont pris beaucoup de plaisir, les parties étaient intéressantes. Il y en a pour qui c'était une première sur Laval, donc j'espère qu'ils ont su apprécier sa juste valeur le tournoi. Et puis ouais on attend la session de printemps maintenant. Et je crois qu'on annonce une grosse équipe lavalloise au printemps.
Oh que oui.
Très très grosse équipe.
Oh que oui, Fred, là, à n'en pas douter.
Et voilà, il s'agit de rompre avec l'hégémonie. Cette fois-ci, c'est les Bretons qui sont sortis vainqueurs.
Oui.
Et il faut que les Mayennais se fassent respecter chez eux.
Ils sont forts. Ils sont forts aussi, ces Bretons, là. Fred, on parle un peu du gymnase quand même ou quoi? Parce qu'on parle énormément de ce gymnase de Jeff Lemoine et toute cette zone là autour du stade lavallois qui serait reconstruite. Est-ce que ce serait vraiment une perte de perdre ce fronton? Est-ce qu'on a du poids pour appuyer, pour faire en sorte qu'il existe encore? Comment ça peut se passer?
J'espère que nos édiles vont nous entendre, parce que ce fronton, tous les extérieurs, là on avait encore des Tourangeaux et les Bretons qui prenaient en photo ce fronton.
Ouais.
En nous disant que c'était vraiment une pièce vraiment chouette.
Ouais.
Et puis, vraiment, ils apprécient. Donc, ça serait vraiment bien soit de le préserver, soit de le reconstruire. Parce que ça mérite. Et puis, on a que des bons échos. Et puis, c'est d'un point de vue structurel, c'est quand même assez facile. La pelote basque, voilà, on a juste besoin d'un mur. Donc, derrière, si on peut profiter de structures un peu plus à jour, on va dire, ça pourrait être pas mal.
C'est facile. Il y a besoin d'un bon kiné aussi, je crois.
Ouais, pour ça, c'est...
Souvent, l'épaule ressort
un peu. Il n'y a pas que l'épaule, il y a tout le corps qui subit un peu.
qui subit un petit peu. En tout cas, évidemment, nous, on appuie toujours pour que les gymnases lavallois soient rénovés. Château-Gontier, c'est tellement magnifique.
Bien sûr.
Évron, c'est magnifique. Il y a pas mal de petits bleds comme Andouillet, c'est magnifique. Et nous, Laval, on ne s'en sort pas. Et donc, si jamais vous devez refaire une salle, en tout cas, refaites-la bien et retracez-nous notre fronton, s'il vous plaît. On a mangé ensemble le midi, on a bu un coup le soir, on a joué toute la journée, c'était
belle ambiance,
ouais,
belle ambiance,
super sympa. On s'éternise pas non plus sur la pelote parce que c'est pas forcément le sport phare de la région et du département. Qu'est-ce qu'on proposait après le soir
après, un match au sommaire,
où ça mon frère,
il me semble que c'est la salle polyvalente,
la salle Pau, le premier match de la salle Pau du volley là, ouais,
pour la SPTT, ouais match au sommaire,
SPTT qui tournait à fond là, qui était que des victoires
ouais, une très très belle dynamique
là,
match au sommet, c'est toujours la même même chose. Rencontre au sommet, ça peut être des matchs très très équilibrés, comme parfois bah, il suffit qu'il y ait une équipe à prendre un peu le dessus. Bah,
ouais.
Ça peut.
Étonnant.
Oui, 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 parce que.
Étonnant, parce qu'on en discutait, on a eu la joie d'avoir Tristan au téléphone il y a 15 jours de ça. Lui, un vrai volleyeur, et on en discutait dans la semaine. Il dit bah, écoute, des 25 sets, ça n'existe pas en général. Hein. Donc le premier set, tu prends ils prennent 25 à 7.
Et c'est très dur.
C'est
très dur de s'en remettre, en fait.
C'est dur.
C'est comme dans tout. Enfin, c'est sport d'opposition. Si on arrive à accrocher au départ, on instaure un peu le doute chez l'adversaire, c'est s'équilibre. Alors que quand ça déroule,
terrible.
Voilà, la récepte un peu défaillante, donc la tête sous l'eau, et puis ça met pas le passeur en confiance, et du coup, y a un ascendant psychologique et ça peut vite tourner. Parce que le volet, ça va très vite aussi. Dès qu'il y a quelqu'un qui prend le dessus, les points peuvent s'enchaîner, et c'est t'es pas comme au tennis où tu peux faire des ronds, essayer de changer. Là, t'as une vraie problématique.
Et
quoi.
Pourtant, c'est un sport co. Ça veut dire que tu vas te dire, il y a un joueur qui plonge. Ouais, peut-être, ok. Il y a deux joueurs qui plongent, ok. Alors, en plus, il y a des remplaçants. Mais tu dis que toute l'équipe est un poil en dessous, quoi. Voir un vrai cran en dessous, c'est bizarre, ça, quand même.
Ouais, c'est aussi la particularité du volet, puisqu'on sait qu'il y a une phase super importante. Enfin, deux phases, c'est le service et la réception. Et malheureusement, quand la réception n'est pas à la hauteur, personne ne peut jouer derrière. Ou dans de mauvaises conditions. Et c'est une vraie problématique qu'on rencontre pas sur d'autres sports co où on peut modifier la défense au basket, passer en zone, en individuel, etc. Là au volley, si tu réceptionnes pas bien,
terrible. J'ai beaucoup vécu ça, des problèmes de réception dans mes équipes, mais bon bref, pas là pour pas être ça évidemment. Est-ce que tu penses que les joueurs là, nous, nos Lavallois, ils ont eu un petit peu la trouille de ce public énorme là qu'il y a eu, puisque ça tournait à 1000 personnes, ça peut jouer, tu crois ça?
Ouais, je pense que ça peut jouer dans le sens où c'est une équipe jeune.
Ouais.
Et donc effectivement, c'est le premier de l'année à la Salpo.
Ouais.
C'est le match au sommet parce qu'en face, attention, c'est une très très grosse équipe. En face, c'est les favoris de la poule.
Oui.
Et donc effectivement, peut-être que s'il y avait eu un ou deux matchs avant à la Salpo avec cette ambiance-là, cette dynamique-là, peut-être que ça aurait été, y aurait eu moins, un peu l'impression d'être tétanisé. Bon après, c'est aussi les autres ont démarré pied au plancher. Et
très fort, rien à dire. Parce que tu vois, même au niveau de l'ambiance dans la salle, on est 1000, il fait beau, il fait chaud, on est bien, on est top, on demande qu'un truc à s'enflammer et on n'y arrive pas. Et je discute avec Will, le speaker du Stade Lavallois, donc c'est lui qui faisait le speaker à ce moment-là. Et je lui dis, putain, c'est dur, hein, c'est poussif. Il me dit, tu perds les points. C'est compliqué, la tribune elle a plus envie de s'enflammer et je me dis j'espère en tout cas que pour la SPET en tout cas on ne perde pas tous ces gens là quoi.
Non, je pense pas. Alors forcément s'il y avait eu un gros match, une grosse ambiance, ça renforce dans l'idée de revenir.
Ouais.
Après je pense que les gens ils comprennent aussi quelquefois ça se goupille pas bien, les joueurs sont un peu tétanisés. C'est dur. Ce qui est surtout dingue, c'est quelquefois il suffit de pas grand chose, un déclic, un bon passage au service, quelques points, on s'enflamme et ça y est, c'est parti. Et puis ça décolle jamais.
Ça décolle pas.
C'est dur.
Mais bon, on va pas se décourager pour autant. C'est un super spectacle. Je vous dis, à la Salpo, il fait chaud, il fait beau, il y a de la musique, c'est top. Ça reste un excellent moment. Et moi, comme j'ai pas décollé de la Salpo, le lendemain, le dimanche, qu'est-ce qu'on avait ensuite, Fred?
On avait du handball. Enfin, j'espère que t'es rentré chez toi entre deux, mais il y avait du handball.
Fallait que je remette le parquet, fallait ceci, cela, ça c'est pas évident. Hein.
Pareil, handball, mais dans une autre configuration, parce que à l'inverse, autant la SPTT en volet était sur une vraie super dynamique, autant là le handball était un petit
dans
peu
le dur.
Dans le dur, venait de perdre notamment un match qui était à leur portée précédemment, donc il y avait besoin d'une réaction. Et puis je crois qu'il y a eu réaction.
Réaction, génial, c'est pareil, à suivre, c'est top. Il faut encore plus de public, tu sais qu'ils font 1200. Énorme ambiance dans la salle, pareil. Et puis là, c'est nous qui mettons la marée aux adversaires. Alors forcément, c'est plus facile une tribune de réagir dans ces cas-là. Et tu sens que tout va bien. Là, c'est pareil, tu vas boire un coup à la mi-temps, tout le monde est heureux. C'est un moment extra, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai que là on touche deux sports qui ont vraiment le vent en poupe,
ouais.
À la fois au niveau national et puis au niveau là, local. Donc ouais, c'est vraiment assez chouette. Quoi.
Alors
et
là, nous, on a le joueur peut-être hein, de la Nationale 1, puisqu'on a un certain Axel. Et Axel, il est annoncé, le speaker qui fait son boulot au début, deuxième meilleur buteur de la N1. Alors bah, super, on va voir le phénomène et tout. Bah, le gars, il est à la hauteur. Je peux te dire que le type, il est à hauteur. Il te met des pions sur pions, c'est impressionnant.
Ouais,
quoi.
Sachant qu'en plus, il est connu, il est ciblé. Il est pas mal ciblé par les défenses adverses et malgré tout. Alors, j'ai pas sa performance exacte, celle-ci, mais celle du week-end avant, il a mis 14 buts le week-end avant.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment la pierre angulaire. Alors, faut le mettre vraiment dans le coton. Faut pas qu'il se blesse parce que... Mais ouais, tu sens qu'il est un cran au-dessus.
Il est un cran au-dessus, il était avec son compère l'année dernière, le fils de l'entraîneur, la dynastie, et ils étaient deux à faire tourner un petit peu l'équipe, à mettre pion sur pion. Et c'est vrai que ça, cette année, il se blesse.
Blottière
se blesse, le drame absolu pour le club, et finalement, on se rend compte qu'il y a d'autres joueurs qui émergent. Il y a ce Axel qui est toujours extraordinaire, et tu dis que ça tourne. Donc
ça va. Et c'est même si ils ont eu quelques craintes sur les derniers matchs, mais ça se maintient, donc c'est un super collectif avec une ou deux individualités qui étaient prévues au point de départ hein, pour encadrer, pour un peu diriger l'équipe. Et c'est vrai que là, la seule problématique, c'est que l'étau se resserre. Il est clairement identifié, ce joueur.
Il ne faudra pas tourner autour que de lui. Alors, ils ont aussi un gardien magique. Ça a été une recrue de l'année. Et le type, pourtant, Ande, c'est dur hein, d'être goal. Le gars est infranchissable. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu regardais les attaquants, ils ne savaient plus que faire. Ils n'osaient plus taper. Ils avaient,
C'est la particularité du Ande. On sait qu'un gardien, il peut faire c'est comme au hockey sur glace. C'est la moitié de l'équipe à lui tout seul. Si le gars
Que l'attaquant sache plus trop où tirer, je veux bien. Moi, le gardien, il prend toute la place. Mais en hand, tu dis, il reste encore de la place. Ben non, quand le type fait le boulot.
Ouais, mais que c'est toujours la même chose. Hein. Psychologiquement, il marque son territoire. Ça commence à trembler en face ou à se poser des questions. Ouais. T'es plus naturel quand tu lâches le bras. Et puis, tout de suite, ça, on l'a vu, on a eu des grands gardiens français qui étaient super réputés pour ça. Et c'est vrai que c'est... C'est assez magique et assez impressionnant. Et puis de voir, là on est proche, on est semi-professionnel à ce niveau-là. Et l'impact du gardien, c'est phénoménal.
Parce que même un péno, ils sont en panique pour le tirer, ils ne savent plus où le tirer. Donc même un péno, alors c'est dur de taper un péno, je ne dis pas, mais tu sentais que c'était dans les tronches, c'était dur.
C'est pour ça que c'est un poste fondamental. Quoi.
Ouais. Donc très très bon moment, très belle équipe, on leur souhaite le meilleur évidemment, parce qu'ils étaient, ils étaient un petit peu dans le dur, hein, forcément, ils avaient perdu un peu l'entraîneur, ils avaient perdu ce joueur phare, donc il faut se reconstruire, mais il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose.
Ouais, et puis il ne faut pas oublier que c'est l'aboutissement d'une énorme aventure. Donc ça vaut le coup que ça se prolonge et puis que c'est vraiment un moment charnière. Quoi.
Ouais, exactement. Et ça fait penser du coup alors tout de suite, mon Fred, le fait de grossir. Le fait de grossir. Alors je parle pas de toi hein, sur certaines photos qu'on a retrouvées parce que c'est vrai que
je vois pas de quoi tu parles.
Il y a eu des goîtres compliquées, mais bref, grossir. Est-ce que c'est forcément une bonne chose? Grossir trop vite, grossir lentement, même à la limite, mais faire en sorte. Tu vois, ils en parlaient avec le Paris FC, ne pas faire du matra racing où on balance tout de suite des milliards et puis ça fait flop. On y va petit à petit. Là, tu te dis que cette équipe, forcément, ça y va petit à petit, mais mine de rien, c'est 6 montées en 6 ans, donc c'est complètement extraordinaire. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que faut savoir prendre le temps sur certains paliers? Comment tu vois les choses, toi?
Tout dépend de l'objectif final. Après, si on prend l'exemple du handball, là, c'est une vraie histoire de copains aussi. C'est une vraie identité familiale, etc. Donc, c'est une génération qui va jusqu'au bout de l'aventure. Donc, eux, je pense qu'ils en sont conscients. Qu'ils arrivent, là, ils touchent leur Graal, on va dire. et qu'effectivement, ça va peut-être être dur de rester sur cette dynamique. Donc ça, c'est un exemple. Sur les clubs, en règle générale, grossir trop vite, non, il faut se structurer.
Ouais.
C'est évident et c'est ça qui est le plus dur. De structurer, assurer la pérennité du club. Parce que quand on monte haut, il y a aussi plein d'incidents sur... voilà, il faut trouver des arbitres, il y a un financement à trouver.
Ouais.
Donc il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. Et souvent, au point de départ, à la fois les joueurs, mais aussi les dirigeants, ne sont peut-être pas prêts à assumer tout ça parce que c'est tout nouveau. Et puis que ça... Là, on touche quasiment du professionnalisme. Hein, donc ça veut dire qu'il faut avoir le temps de s'y consacrer, il faut avoir les compétences.
Tu m'étonnes.
Ce qui n'est pas évident, parce qu'on peut être un très bon coach ou un très bon dirigeant d'un club modeste ou même moyen, mais passer le gap, voilà.
Tu te rends compte, quand on a la chance d'avoir Edouard Marquet avec nous ici, tu parles d'un type qui est parti de zéro, quoi.
Donc, et bien sûr.
Il sait pas c'est quoi manager, il sait pas tout ça.
Ah oui, bien sûr. Effectivement, sur le futsal, c'est un super exemple aussi. C'est très compliqué.
Ouais. Le mec s'est construit. Hein. On parle de self-made man. Là, pour le coup, tu te construis complètement. Tu pars de zéro. Ton équipe, elle est en département, donc la base de la base, et t'arrives en Ligue des Champions, c'est de la folie.
Ouais, et puis ça veut dire qu'il faut les compétences intrinsèques, il faut la possibilité familiale, parce que eux, c'est des vies qui ont été complètement bouleversées.
Ouais.
Donc il faut aussi que l'entourage puisse s'adapter.
Ouais.
Derrière, ça veut dire aussi que si on veut rester compétitif, quelquefois, il faut aussi recruter. Donc est-ce qu'on recrute les bonnes personnes? Parce qu'on peut tomber aussi... Dès qu'on touche le monde pro, il y a un peu d'argent, donc on peut tomber sur des mercenaires. On est habitué à fonctionner avec des gens de confiance, mais des gens nouveaux, il n'y a pas le même passé. Il y a aussi, sur toutes ces belles montées, il y a une vraie culture locale.
Ouais.
Quand on fait venir les gens de l'extérieur, ils s'y retrouvent un petit peu moins. Donc il y a des gens qui s'adaptent très bien, il y a des joueurs très sérieux, puis quelquefois il y a des gens qui sont un peu plus sains pour leur CV et puis qu'on a un peu moins, enfin qui s'imprègnent moins de la culture locale.
Ça peut te casser des ambiances, tu sais. Toi tu viens voir le boucher du coin qui vient jouer, tu viens
bien
voir
sûr.
Le charcutier, tu viens machin truc chose, et puis là c'est que des gens que tu connais plus et t'as plus forcément envie de suivre, quoi.
Ouais, et puis quelquefois la force d'une équipe, ça peut être aussi son collectif. Et que quand on rajoute deux ou trois individualités qui au demeurant sont très fortes, mais ça prend pas bien. Et puis ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui perdent leur place, donc comment ils le vivent quand on a toujours été de l'aventure. Et puis tu prenais l'exemple du gardien au hand, on sait qu'un gardien c'est fondamental. Tu fais venir un joueur, s'il est très fort, il va jouer, mais ça veut dire que les petits camarades ils jouent plus du tout, parce que là c'est des postes où tu peux pas trop partager,
tu peux pas.
Et donc tu peux passer ton temps à bien t'entraîner dans la semaine et puis le week-end à rester sur le banc.
Sachant que là, les mecs sont pas pros. Donc, tu vois, le deuxième gardien de l'Union Sud-Mayenne, le mec, il est rentré sur les 10 dernières minutes parce qu'il n'y avait plus rien à jouer. Mais ça veut dire qu'il se tape les déplacements à Boulogne, il se tape les déplacements à Strasbourg, un machin, truc, chose. Enfin, c'est dingue de jouer très peu, quoi.
Ouais, c'est pour ça que c'est très, très, très compliqué. Et c'est pour ça que la structure est super importante.
Ah, ouais.
Et il faut trouver les bons dirigeants, il faut trouver les bons entraîneurs,
et
les gens motivés, quoi.
Et que tout le monde soit d'accord dans le club, tu vois, discuter avant pour savoir est-ce qu'on est-ce qu'on bascule vraiment dans le monde du haut niveau ou est-ce qu'on reste à notre niveau, parce que on a aussi une ambiance, on a ça à défendre et ainsi de suite. C'est des choix, c'est des vrais vrais choix. Par moment, tu vois, je pensais moi aussi au bouc de la Mayenne qui sont en train de venir, une énorme structure. Est-ce qu'on a intérêt quasiment à passer de encore le cap supérieur et devenir une course UCI, une course
cette maturité, les boucs de la Mayenne, c'est toujours été une grosse structure. Donc là, ça a progressé en même temps que l'évolution du vélo. Parce que c'est quand même c'est une course très réputée pour les pour le soit à l'époque le très haut niveau amateur, soit le on va dire le début du monde professionnel.
Ouais.
Et ça se renforce de plus en plus. C'est vrai que derrière c'est la même chose, organisation, budget, infrastructure, c'est
Parce que là, on les connaît un peu aussi, les dirigeants de ces boucles de la Mayenne. Là, tu dis, comme on disait tout à l'heure avec Edouard Marquet, qu'il faut, vous êtes parti d'un truc qui était sympa, mais relativement régional. Et puis là, vous êtes clairement à l'international. C'est faut le gérer.
C'est l'antichambre du très, très haut niveau. Il ne faut pas oublier que boucle de la Mayenne, c'est les premières victoires de Van Der Poel, c'est sur les boucles, etc. Donc,
c'est bien ça. Alors, certains se sont tel Icare, se sont brûlés les ailes, bien sûr, en grossissant trop vite ou essoufflé, tout simplement. Il faut faire attention à tout ça. On pense aussi à des festivals, tu vois, les vieilles charrues qui sont parties de 1000 ouais. personnes en plein milieu des champs à carré, qu'on grossit. Là, le VNB Fest qui devient un truc énorme chez nous. Bon, c'est très bien, il faut faire gaffe, mais c'est top. Vive le sport. Et si on peut arriver tout en haut, tant mieux. Et si on n'y arrive pas, c'est tant pis aussi, puisque c'est très sympa aussi de faire du local. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mon Fred? On a bien sûr le Stade Brestois, la page un petit peu Ligue des Champions. Et là, je sais que toi, tu as tout suivi. Est-ce qu'on bascule dans le féerique? Est-ce qu'on c'était marrant, quand il y a le but de Brest, le commentateur il fait abracadabrest. J'ai trouvé très très bon de balancer ça sur le moment. Tu te dis, t'es dans la magie totale, quoi. C'est fou là.
Ouais, et là, on touche encore, c'est le prolongement de ce que tu disais tout à l'heure. La Brest, c'est à leur niveau, c'est pareil. Là, ils touchent le Graal.
Ouais.
Ils sont en Ligue des Champions, donc certains, on va dire, rigolaient un petit peu. Voilà, j'irais en se disant, bon, bah, qu'est-ce que ça va donner Brest?
Ouais, et puis, en fait. Beaucoup de monde, Fred.
Ouais,
c'est
une belle aventure. En plus, certains, j'allais dire, d'aucuns s'étonnaient qu'il n'y avait pas un recrutement de folie pour Brest pour jouer la Ligue des Champions. Et en fait, on s'aperçoit que ils sont compétitifs, que faut pas se mentir non plus. Toutes les planètes sont alignées, ça se goupille bien. Mais je pense aussi ils provoquent cette réussite. Et ils ont un gardien qui marche sur l'eau.
On parlait de Sud-Uranda ici à Laval. Là, c'est dingue. Ce qui sort, c'est de la folie, c'est génial.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est une vraie dynamique. Après, à leur décharge, ils ont beaucoup de blessés.
Ouais.
Et malgré tout, ils restent compétitifs.
Ouais.
Alors, ils ont eu début de compétition, ils jouaient des équipes un peu de second niveau. Mais là, là, ils jouent une vraie belle équipe. Et la victoire, elle est pas totalement illogique.
C'est toujours un peu le même schéma, c'est-à-dire que tu prends un peu la marée sur la première mi-temps, le temps de comprendre que t'es en Ligue des Champions, le temps de comprendre que ça sert à rien de marquer trop de respect pour les équipes d'en face, et la deuxième, ça s'équilibre et tu te dis que mec, les Brestois sont presque meilleurs que les adversaires.
On a surtout l'impression un peu comme s'ils jaugeaient l'adversaire et ils grimpent en niveau.
Ouais.
Et ça devrait être sympa d'échanger avec le coach, avec Eric Roy, savoir s'il a vraiment vu l'évolution de ses joueurs entre les premiers stages d'été et maintenant, parce qu'effectivement à chaque fois on se dit, quand on voit les débuts de match, on se dit oula, ça va être très compliqué.
Ouais.
Et puis en fait au fur et à mesure ils montent le niveau, et puis derrière effectivement, alors là si ça avait fait un 2-2 ou un 3-3, il n'y aurait rien eu d'illogique.
Non.
Mais ils sont à leur place, il n'y a rien de volé. Moi je fais référence aussi à leur match précédent contre Barcelone. Alors ils prennent 3-0, on se dit effectivement le Barça était un cran au-dessus, mais en fait quand on regardait le début du match, on se disait voilà, ça va faire très très mal. Et puis au final ils sont 1-0 à la mi-temps, ils ont des occasions pour revenir à un partout, ils sont pas ridicules. Donc derrière, bon voilà, ils sont pas dans le même monde, mais c'est pas du tout le petit pousset où on fait en face de la passe à 10, quoi.
Ouais, et ça je pense que c'est une bonne leçon à retenir pour tout le monde, ça, le fait d'arriver dans une compétition. Alors l'humilité c'est très bien, mais faut pas aussi se rabaisser, quoi. C'est à dire qu'il faut pas montrer trop de respect à l'autre, parce que sinon on se laisse marcher dessus au départ, et puis c'est trop tard.
Ouais, et puis il faut saisir les occasions. Je pense qu'eux ils sont dans leur bulle. Ouais, c'est vrai que c'est assez phénoménal, parce que moi qui suis un pur Lavallois, ça me fait vraiment penser quand Laval a fait l'UEFA, Dynamo de Kiev, l'Austria de Vienne. Et c'est pour ça que quand je vois jouer à Brest, ça me fait vraiment penser à ça, où les gars, ils, à la base, sont de bons joueurs de foot. Faut pas se leurrer, ce sont de bons joueurs de foot. Qui sont peut-être moins connus que certains, mais qui se donnent à 120%, qui sont solidaires et qui savent jouer au football.
Et qui savent jouer au foot.
Et derrière, ça fait de belles rencontres.
Je te dis, ils me font complètement changer mon discours, parce que moi, ça a toujours été attendez, on est déjà là, c'est déjà magnifique, on fait au mieux. Non, c'est pas on fait au mieux, c'est on va à la Mayoche pour aller gagner et pour. Faut réussir à basculer mentalement dans l'idée, oui, je suis en Ligue des Champions. Champion, c'est formidable, mais ça suffit pas. Faut aussi franchir encore un cap. Et ça, c'est pas un manque d'humilité, c'est être compétitif.
Quoi. Ouais, et puis en plus, je pense que cette nouvelle formule a permis ça, parce qu'ils ont commencé sur des équipes, ils n'ont pas commencé avec dans le Real Madrid et Manchester City.
Ouais.
Et donc, en fait, ils ont pu se mettre à niveau, ça s'est bien passé au départ. Et je pense que match charnière, c'est Leverkusen, parce que Leverkusen qui a annoncé quand même le champion d'Allemagne, l'ogre et tout.
Ah, ouais.
Puis en fait, ils ne sont pas ridicules du tout. Et puis je pense que là, ça y est, c'est parti.
Ouais.
Et encore une fois, ils ont des bons joueurs, ils ne se sont pas trompés en allant recruter des pseudo-stars. Ils ont leurs joueurs, ils ont une vraie équipe. Ils ont un très bon coach. Et puis eux, c'est tout à l'inverse de tout le monde, quoi. Ils ont les dirigeants, il y a l'équipe de coach, ils sont trois. C'est vraiment petit staff.
Ouais.
Et puis tout le monde est à fond et ça se passe super bien. Moi,
tout
ça, c'est
à échelle, une échelle qu'on peut comprendre.
Ouais, exactement. C'est pour ça que ça fait souvent penser, moi, au Stade Lavallois des années 80, quoi. Où on avait vraiment le sentiment, on avait des très bons joueurs. Mais il y avait une vraie proximité, il y avait une vraie humilité. Par contre, des gars qui, voilà, c'est pas des joueurs en bois, des vrais joueurs, quoi. Et c'est super agréable, quoi.
Et alors, du coup, cette fameuse formule, là, alors les gens continuent à dire, on comprend rien. Bah, c'est pas si compliqué que ça, hein. Vous jouez vos matchs et puis vous qualifiez ou pas. Donc, je vois pas ce que les gens comprennent pas. Moi, j'adore. Tu joues plein d'équipes différentes. C'est pas de l'aller-retour stéréotypé. Ça, on verra ça plus tard pour les phases finales. Moi, je suis complètement fan du concept.
Ah ouais, complètement. Et puis là, c'est du pain béni parce qu'il y a, il va y avoir de l'enjeu jusqu'à la dernière rencontre.
Ah ouais.
C'est ce qu'on disait la dernière fois, il va y avoir quand même un Brest Real de Madrid qui va être décisif sur le dernier match.
Ça va être fou, quoi.
Mais c'est un truc de dingue parce que je pense même les gars du Real se dire on va aller jouer la qualif, même pas à Brest, mais à Guingamp. Donc, déjà sur la carte, ils savent pas où c'est. Ils connaissent pas un joueur de l'équipe d'en face. Ouais. Et là, tu te dis, ça va presque. Alors, je pense qu'ils seront au moins en phase qualificative, je veux dire en barrage, le Real, mais. C'est même pas donné, ça. Donc, je trouve ça assez chouette.
Ça te crée des moments de dingue. Ça te crée des Lille qui te font des choses extraordinaires.
Parce que
Lille est fabuleux. Lille fait ses matchs, les gagne, mais en jouant bien, quoi, et en dominant l'adversaire.
Ah ouais, globalement, quand on regarde les équipes françaises, personne n'est ridicule. Le plus ridicule, pour l'instant, c'est Paris, qui est 25e, premier non qualifié. Pour l'instant, tous les autres sont soit dans les 8 premiers, soit dans le...
Monaco est juste après.
C'est impressionnant.
Énorme,
ouais,
c'est énorme. Impressionnant. Tout va bien pour le foot français. Donc, continuons à le suivre aussi, évidemment. De la pépite qui sort de là-dedans, t'en vois, toi, Fred, je te parle tout, là, de tous les clubs, là, tout ce qu'on a pu voir dans la semaine. Là.
Ah, de la pépite, pour l'instant, je sais pas trop. Il y a juste une confirmation que je trouve intéressante, c'est que tu sens que le Barça, par exemple, revient.
Ouais.
Revient. Ils ont passé quelques années un peu compliquées. Là, tu sens que ça commence à ressembler à quelque chose. Je suis assez content aussi d'Arsenal qui joue pas trop mal. Ça, c'est intéressant.
T'as des mecs comme, tu sais, des gars qui émergent, là, des Lookman, là. Des noms, on avait entendu, mais pas tellement non plus. Bah, là, les mecs, ça confirme de la folie.
Ouais. C'est donc Bergam, mais Bergam, ça fait un petit moment qu'on les voit monter en puissance.
Quand t'es le nom qui monte, quand t'es le numéro 9 qui monte, putain, mais c'est dur parce que tu commences à avoir pas mal de monde sur ton dos. Le mec confirme. Moi, je dis bravo. Hein,
ouais,
bravo,
bien
bravo.
Sûr. Et puis là, ce qui est intéressant sur cette phase-là, ça y est, on voit quelques gros qui commencent à réagir. On faisait référence à Lookman, on a vu que le Real commençait à réagir là un peu. Il y a des gars qui montent en puissance. Tu vois, Bellingham, il commence à retrouver un peu de stature et d'un seul coup, ça change aussi l'équipe dans laquelle il joue. Et les équipes, au contraire, qui sont toujours fragiles, City, on les reconnaît pas, quoi.
C'est de la folie totale.
Et alors,
Est-ce que t'as perdu
Rodri, t'as perdu l'équilibre au milieu de terrain.
Et le fameux un seul être vous manque et ça a l'air de la folie, quoi.
Ouais, c'est vrai que le Real a connu la même chose avec Kroos et City avec Rodri. Et effectivement, t'as vraiment l'impression que, parce qu'autrement, tout le reste des effectifs est là, c'est le même coach qui prolonge et tout. Donc normalement, tout le monde est concerné.
Ouais.
Et ils sont en souffrance, quoi.
Ah, la grosse souffrance. En tout cas, on vit une belle compétition. On vit une compétition bien arbitrée aussi, parce qu'on espère avoir d'ici une quinzaine de jours notre arbitre mayenné, notre vedette, et ce serait top qu'il soit avec nous, évidemment, dans 15 jours. On a quoi d'autre sur cette Ligue des Champions, on le disait, hein, Paris qui se refait une petite santé quand même,
qui a gagné le match qu'il fallait gagner. Après, c'était relativement faible en face, mais par contre ça a bien joué. Ils gagnent 3-0, ils peuvent en mettre 6. Ils retrouvent la dynamique qu'il faut avoir.
Ouais.
Match au sommet la prochaine fois, puisqu'ils reçoivent City. Donc là, deux gros leaders qui sont, enfin deux grosses équipes qui sont en difficulté.
Et on pensait jouer le quatrième contre le cinquième peut-être.
On a joué le
25e
contre le 22e.
Incroyable. Super. Tout va bien dans cette magnifique compétition. Bien entendu, Fred, est-ce qu'on s'offre une petite coupure et on reprend tout de suite après?
Bien sûr.
Messieurs dames, on revient avec une remise des trophées de l'année sur les sportifs de l'année. On revient avec du Vendée Globe et nos invités qu'on a pu recevoir cette année. Allez, à tout de suite, on fait une petite pause musicale. Allez, on est reparti pour cette deuxième partie de Sport Épique. Évidemment, je suis toujours avec mon Fred. Fred, toujours là. Toujours au top, évidemment, dans ses explications. L'être qui vous manque et qui était d'être peuplé, on en a reparlé là pendant cette petite pause. On pensait, par exemple, qu'un Liverpool allait plonger après un départ de
Klopp, de l'entraîneur.
Et puis, on se rend compte que tout va bien.
Ah ouais, ça tourne même plutôt mieux. Et c'est ce qu'on dit aussi hein, sur la mentalité des joueurs, sur la fatigue peut-être quelquefois mentale. de suivre un coach, au demeurant très très bon, mais bah, le renouveau, ça peut faire du bien aussi.
Le
quoi.
Renouveau, ça peut faire du bien. Et c'est vrai que tu as des joueurs que tu as un peu enterrés avec tel entraîneur parce qu'il ne te correspond pas, qui va renaître complètement avec l'autre sur un style de jeu différent. C'est, c'est intéressant. Ce Liverpool-là, il est intéressant par rapport à ce club qui était adulé.
Qui était adulé, à la limite, il prenait peut-être trop de lumière à la fin.
C'est un peu toi, les finances. Je pense à toi aux finances.
Bien sûr.
Prenait beaucoup de lumière depuis que tu as arrêté.
Eh ben ça, mais ils ont arrêté. ça a disparu.
Alors il y a quelques contre-exemples. Non, évidemment, il faut savoir ces fameux arbres qui cachent la forêt. Bah la forêt est très belle parfois. Donc
c'est ça. Et puis ça permet de responsabiliser d'autres joueurs. Je pense qu'ils ont besoin d'entendre un autre discours.
Ouais.
Mais il y a des coachs qui sont très forts pour ça, savoir dire bah non, là j'ai fait la chose. On est à très haut niveau et tout, mais je vais m'effacer, m'éclipser pour...
Pas facile. Ouais. Bravo à eux. On continue, mon frère, on continue avec les trophées, avec la remise de trophées. On arrive en fin d'année,
C'est l'heure des bilans, comme on dit.
On est vers le 15 à peu près, là. L'heure des bilans, bien entendu, le bilan français. Alors, je vais te demander, bien sûr, ce n'est pas... ce sera pas... Ah oui, peut-être que tu as raison, ceci, cela. Moi, j'en ai deux. Donc, tu as intérêt à me sortir les deux, quoi. Sinon tu es un inculte. Donc, tu vas me sortir les deux Français de l'année. Là.
De l'année, c'est Léon Marchand et puis Teddy Riner.
Ouais, t'es bon. Très, très bon. Évidemment, on a vibré tout l'été.
Bien sûr.
Ces deux monstres. Riner, c'est un monstre sacré du sport.
C'est le gars qui arrive à toujours confirmer, quoi. Donc, il est dans un rôle de grand frère, quasiment, pour les autres. Et puis, c'est le grand frère qu'on aime bien parce qu'il continue à gagner.
Il fait gagner les autres.
Donc, l'histoire est fabuleuse.
Et l'autre, évidemment, Léon Marchand. Alors, on disait, si vous citez 1936, vous avez cité Jesse Owens. Si vous citez 72, vous avez cité Mark Spitz. Et si vous citez là les Jeux de Paris,
C'est Marchand.
Et vous allez citer Marchand.
Ouais, Marchand.
Donc, tu as mis ton empreinte sur des Jeux Olympiques. C'est extraordinaire.
Ouais, et puis avec presque une insouciance. Le gars a l'air tellement gentil.
Ouais.
C'est l'impression qu'il donne, parce qu'on ne le connaît pas personnellement. Il a l'air tellement gentil et ça a l'air puis tellement humain, parce que c'est pas un Golgoth, c'est pas parce que le fond, on a des, tu vois, à la limite Riner a ce côté énorme, fabuleux, mais déjà physiquement il est impressionnant.
Donc
tout le monde ne peut pas s'identifier à Riner parce qu'on voit le gars est monstrueux naturellement. Alors que Marchand, t'as un peu l'impression que ça peut être ton voisin ou le fils de ton voisin. Donc il impressionne moins. Et puis une fois qu'il est dans l'eau, c'est fabuleux, quoi.
Ah, c'est fabuleux.
Et puis de répondre aux attentes en étant si jeune, parce que tout le monde disait si on a des chances, c'est lui, de médailles et tout. Et puis il confirme. Ouais, ouais. Ça, c'est chouette, quoi.
Et là, donc il a déclaré forfait là pour les.
Le champion du monde mondiaux, de petit bassin.
Alors ça, parfois, ça fait parler. Non, mais arrêtez, le mec, il a donné comme un taré là depuis.
Ouais, alors c'est ce qui est surprenant, c'est qu'il avait préparé les mondiaux, puisqu'il avait fait les compétitions, il avait fait la Coupe du Monde en fait en petit bassin, et où il montait progressivement en puissance. Il a battu un record du monde de l'Octi d'ailleurs. Et on se disait, il va encore faire une radia, et le gars, alors, mais c'est aussi, je pense, tout à son honneur, il est fatigué.
Ouais,
et donc plutôt
fatigué,
que d'aller faire semblant ou de, je pense, de pas être à 100%, il préfère se reposer. Je trouve ça plutôt sain.
Et après, par contre, va falloir se relancer. Tu vas faire un peu les fêtes, forcément. Tu vas bouffer un peu. Tu vas enfin profiter un peu de la vie. Et derrière, il va falloir se remettre dans l'eau comme un taré. Ouais. Muscu flotte.
Ouais, mais je pense que Marchand, c'est pas Riner. Il va pas prendre 25 kilos en 8 jours.
c'est pas tous les mêmes, évidemment. Qui on a la mayonnaise de l'année, évidemment.
Heidi Gauguin,
extraordinaire. 3 médailles d'argent, de la folie totale, quoi.
À son âge, elle s'ouvre des portes de dingue.
C'est fabuleux. Et comme sa concurrente directe en plus enfin s'arrête,
qui pourrait être sa maman d'ailleurs, il y a une telle différence d'âge, ça laisse augurer de belles perspectives.
À tout niveau, bravo Heidi, bravo, on espère t'avoir avec nous, évidemment, une fois également. Qui on a, parce qu'après tu dis, on reste franco-français, même Mayenné, c'est génial, mais tu sais, si tu regardes à l'international,
Si on a toujours la confirmation de en athlétisme Duplantis quoi. On a Mondo
qui est la
superstar.
Ouais, rien à dire, la superstar, t'as raison.
Mais c'est vrai aussi que nos belles histoires franco-françaises, elles sont vraies aussi à l'international. Les frères Lebrun.
Mais t'as raison, c'est moi qui suis nul.
Non, non, mais les frères Lebrun.
Non, mais attends, arrête-toi un peu. Les frères Lebrun, c'est dingue. Je suis complètement stupide de pas. C'est le même niveau que Riner et Marchand, quoi.
Ouais, alors la différence, c'est qu'ils n'ont pas gagné. Tu vois, on pourrait mettre. C'est pas une critique. Je veux dire, c'est qu'en termes de résultats, ils ont répondu aux attentes.
Ouais.
Il y a eu ils ont vraiment obtenu les résultats espérés.
Ouais.
Donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est une super promotion pour le tennis de table.
Mais tu te rends compte, c'est pas un sport, nous. C'est pas un sport ni médiatisé. On joue tous, ça c'est sûr. On joue tous un peu au tennis de table, mais ça n'a rien à foutre devant l'écran de télé. Et là, on bascule dans la folie totale.
Ouais, et puis encore une fois, on pourrait croire que c'est juste français, alors que pas du tout. Là, ils ont fait les finales de la Coupe du Monde, on veut, WTC.
Ouais.
C'était au Japon.
Ouais.
Et ça a été pareil. Il y a une vrai engouement pour ce duo.
Les mecs sont bons en plus parce qu'il te faut une petite célébration japonaise.
Bien sûr,
ils sont fans de manga, donc forcément, ils ont tout le public avec
eux. Ouais, mais puis, on sent que c'est pas calculé. C'est des vrais, c'est des vrais sympas, des vrais gentils. Et ça, tu vois, c'est aussi le point commun, parce qu'on citait, enfin tu citais Riner, Marchand, mais aussi le dénominateur commun, c'est que ce sont des personnages sympathiques, qui sont pas clivants.
Ouais.
Riner a une autre aura parce qu'il est plus âgé, etc. Mais Marchand, c'est un gars qui fait super sympa, hyper abordable avec tout le monde. Les frangins Lebrun donnent vraiment ce sentiment-là aussi. Donc pour les jeunes aussi, c'est beaucoup plus facile de s'identifier. Puis pour les parents, c'est rassurant, ça donne une image sportive. Ouais. Bah les gars sont sympas, quoi.
Mais oublie pas que toi, ton idole, c'était McEnroe aussi avant.
Très sympa, très sympa.
Un peu pris citron,
ouais,
parfois.
Voilà. un peu bougon de temps en temps, mais.
Non, parce que c'est vrai que c'est là qu'on est très bizarre, c'est qu'on adore ces jeunes polis et ainsi de suite, mais on adore aussi parfois les bad boys, les tarés.
Ouais, mais on adore les bad boys quand ce sont malgré tout des champions.
Ouais.
Je veux dire, McEnroe, effectivement, c'est un super exemple. Attention, c'est un énorme champion.
Ouais, ouais.
Ce qui est toujours détestable, c'est quand t'as des joueurs avec un comportement exécrable et qu'en plus, ils sont pas des champions. Donc,
Benoît Paire, tu bois un peu
par exemple,
qui fait son cirque systématiquement.
Et bon, donc autant McEnroe. Puis McEnroe, c'était un comportement exécrable parce qu'avec la volonté de gagner, on sentait que c'était vraiment le jusqu'au boutiste pour la gagne. Et donc, la frustration si ça se passait pas comme il voulait. C'est pas pour à la limite, c'était pas pour son personnage. Je veux dire, il s'en moquait complètement. Lui, c'était gagner.
Mais on est affreux, Fred, parce que tu vois, McEnroe, gagne. Donc ça y est, on va tout lui pardonner. T'as le droit d'être un taré. On va te pardonner. Benoît Paire ne gagne pas. Et ben, on va dire simplement, c'est un petit con. Pour qui il se prend, machin truc chose. Je trouve qu'on n'est pas honnête du tout vis-à-vis de ça. Et si t'as la gagne au bout, quoi qu'il advienne, on va tout pardonner. Ça me fait penser au Maradona là qui s'échauffe n'importe comment,
au
milieu de tout le monde qui fait ce qu'il veut pendant que les autres sont en train de trimer. Ben on pardonne au génie. On pardonne tout, quoi.
Ouais, et puis c'est aussi parce que McEnroe, il y avait le pendant. Il y avait Lendl en face qui était tout propre, l'inverse, le stakhanoviste, etc.
Ouais.
Donc ou Borg juste avant qui était le blond, iceberg comme on disait, glacial, et l'autre c'était le feu. Donc c'était ça aussi qui faisait qu'on pardonnait plus à McEnroe, c'est qu'il y avait aussi le pendant, il y avait l'équilibre en face.
T'as eu du Sampras Agassi comme ça, même si Agassi pétait pas des plombs, mais t'avais
qui était flamboyant, qui était.
Alors Sampras, putain, c'était une machine. Là,
ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on adore toujours ça. Et comment on adorait aussi Federer Nadal, parce que il y en avait un, c'était la classe absolue, monté sur coussin d'air, et l'autre, on sentait que c'était le plus besogneux. Alors attention, très talentueux, mais une grosse ébauche d'énergie, alors que l'autre, une goutte de sueur au bout de 5 heures de match. le gars, tu peux le laisser jouer en costard. Non, mais c'est ça qui est dingue. Tu lui donnes une raquette, le gars, il est en mocassin, mais ça reste fabuleux, quoi. Et tu te dis.
Il pouvait faire James Bond, lui, tu vois.
Il pouvait tout faire.
Il a la classe.
Mais on va refermer la parenthèse après, mais c'était même vrai dans les vestiaires. tu voyais l'échauffement avant, ouais. Tu voyais Federer qui était sur son vélo, qui regardait les matchs, qui blaguait avec son coach. À côté de ça, tu avais Nadal qui sautait partout, qui était à fond dans son truc. Et tu te dis, bah, y en a un, tu as l'impression que c'est le joueur du dimanche. Et le mec qui est avec toi le dimanche, tu joues dans 5 minutes. Ouais, ouais, tu t'échauffes pas. Bah si, je suis hâte. C'est comme ça que tu t'échauffes, quoi. Et là, 5 minutes après, il est fabuleux, quoi. Donc,
tu sais qu'on n'a pas parlé, un autre monstre, alors international pour le coup, Fred, cherche-moi un sport qui nous passionne aussi. Un sport estival.
Un sport estival.
Un sport estival, un sport de juilletiste.
Le cyclisme Tadej Pogacar. Bien sûr, bien sûr.
C'est l'année qu'il fait. Ouais. C'est un monstre absolu, c'est... le mec. Ouais.
Pogacar, ouais, c'est énorme.
Dingue.
Après, moi, je suis dingue de Van Der Poel, donc. Ouais. Mais ouais, Pogacar, ouais, c'est énorme.
Pogacar, Giro, France.
France, à chaque fois avec 6 étapes. Le gars est champion du monde.
Mais c'est ça, c'est pas simplement le contre-la-montre d'Indurain, quoi. C'est le gars va te chercher.
Ouais, le panache, ouais.
C'est
de la folie. Et puis, malgré tout, on a eu des doutes sur le Tour de France parce qu'il a réussi, il a perdu une étape au sprint contre le Vingegaard, etc. Et puis, il prend une belle revanche, ouais, c'est assez chouette.
Vingegaard. Ils s'en sont à 3-2, les mecs, dans le duel.
Ouais, c'est
là.
Ça.
Ils s'en sont à 3-2. Ouais, et on est peut-être parti pour des Nadal Federer. Hein. Peut-être.
Alors après,
qu'est-ce que tu veux faire ? Là, franchement, tu regardes les deux. Parce que l'autre, il faut dire aussi qu'il a couru avec 4 côtes pétées et un morceau de cerveau au moins.
Mais
tu te dis, le mec, quand ça va être à 100%, mais enfin,
C'est surtout que là, alors le cyclisme, c'est pour ça que c'est chouette aussi, c'est qu'il y a des vrais affrontements, parce qu'on a aussi Evenepoel qui a gagné les Jeux Olympiques, course en ligne contre la montre.
Ouais, il y a différents formats. Ouais,
on a Van Der Poel qui a quand même gagné les Flandres et puis Paris-Roubaix.
Ouais.
Et ce qui est assez génial avec Pogacar, c'est que cette année, son programme, il va s'aligner autour des Flandres. Donc il va venir défier quand même en direct Van Der Poel, qui lui, il va pas lâcher l'affaire non plus.
Ouais.
Donc ça risque d'être une course assez énorme.
Oh, c'est top.
On a Evenepoel qui va revenir. Donc bon, là, il s'est un peu blessé à l'entraînement. Donc il a pris une portière de voiture. Donc ça va être plus compliqué.
Ouais.
Pour la petite histoire, hein, il a pris une portière d'une factrice, en l'occurrence, hein, de la Poste belge.
Ouais.
Et depuis, ils ont noué un partenariat. c'est pas des blagues pour justement toutes les problématiques des erreurs faites quand on est au volant ou quand on sort sa voiture par rapport au risque qu'on fait prendre aux cyclistes.
Et
donc, c'est
comment
plutôt intéressant.
S'appelle Thomas Vaucler là, qui sur le Tour de France lui aussi nous donne des petites consignes comme ça de sécurité. J'en avais entendu une très bonne, moi, c'était ouvrir sa portière à la hollandaise. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va ouvrir sa portière au lieu de l'ouvrir avec notre main gauche comme on fait tous.
Avec la main droite.
Avec la main droite, ce qui vous oblige à tourner le regard vers derrière s'il y a un vélo qui passe, et c'est extra.
Et effectivement, ça devrait être enseigné dans les auto-écoles parce que ça peut éviter effectivement des.
C'est sport épique, c'est aussi ça, Fred.
Ouais, c'est aussi.
J'ai honte parce que tu vois, j'en oublie du français, du monstre.
Ah,
du
monstre. Bien sûr, du Dupont.
Du Dupont.
Bah oui.
Et tu vois, t'as fait comme moi, t'as commencé par Rinner et Marchand tout de suite, mais putain, mais Dupont. Mais c'est hallucinant, Dupont.
C'est énorme aussi. C'est énorme l'adaptation au rugby à 7. L'éclairage que ça a mis sur le rugby à 7.
Ouais.
Le fait aussi qu'il ait l'humilité de.
Toujours.
De partager. Les médias en faisaient beaucoup sur lui, mais lui a beaucoup reporté aussi sur
toujours.
Le fait.
Toujours. Incroyable.
Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que ça met aussi en lumière, parce qu'il était plutôt, même quasiment, on va utiliser un anglicisme, super sub, c'est-à-dire le joueur décisif, mais quelquefois remplaçant.
Ouais.
Et pour montrer aussi que y a de plus en plus de sports où en fait, c'est pas simplement les gars qui sont sur le terrain, c'est l'intégralité du groupe qui peut être décisif. Je trouve ça assez intéressant.
Mais quelle classe quand t'es sur le toit du monde, d'accepter d'être remplaçant. D'accepter de rentrer, alors un match à 7, c'est 14 minutes, d'accepter de rentrer.
Que sur la seconde 5, mi-temps, que. Ouais, c'est ça.
Et être capable de lever la tête et de dire, c'est moi qui vais faire la diff, c'est moi le meilleur. Quoi.
En termes de coaching, c'est aussi intéressant.
Ouais.
Que tous les joueurs.
Gros charisme aussi de la part de l'entraîneur. Hein,
que les joueurs adhèrent. Faut aussi des joueurs intelligents, donc je pense que c'est une des caractéristiques de Dupont. Après, ce qui est dingue, c'est que le gars, il est à 7, il est fabuleux, il repasse à 15, il est toujours fabuleux.
Alors c'est pas du tout le même sport.
Mais tu sens que le gars c'est un génie du rugby quoi.
Qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça putain. Et encore et une fois de plus un mec vraiment.
Ouais non mais là, tu vois, c'est ça qui est aussi très très intéressant, c'est que le dénominateur commun de tous ces sportifs sportif intelligent, enfin abordable, ouais. Et plutôt intelligent. Hein. Ouais. Donc on se dit aussi que.
Je sais pas ce qu'on a raté nous tous les deux du coup.
Bah ouais, je sais pas. Moi c'est, moi il y a un peu de physique. Je pense que parce qu'à la base il faut aussi avoir une caisse. Il faut aussi que le physique soit capable de tenir. Et ça malheureusement on n'est pas tous égaux devant.
Un Américain. Alors normalement quand même les années de Jeux Olympiques, c'est qui la star mondiale qui ressort?
Bah le 100, vainqueur du 100 mètres.
Vainqueur du 100. Et cette année, bah tu l'as attendu. Et puis bon, oui, il est là, mais. Pff,
ouais, mais c'est, ça va durer encore un certain temps parce qu'en fait, on sort de l'air Bolt.
Ouais. Bah, ça fait longtemps. Hein.
Ouais, mais il a mis tellement la barre. Ouais. C'est tellement hallucinant, ouais, ce qu'il a fait qu'en fait. Tout ce qui est derrière, c'est fade.
Bah, c'est fade. Mais tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, lui, tout le cirque qu'il fait sur la ligne de départ, on l'accepte et on rigole parce que c'est une superstar. Si c'était un mec, si c'était un mec qui finit 7, 8 ou 9, eh ben, le gars, c'est bon, t'arrêtes, c'est bon. On peut,
ouais,
on peut
bien sûr, mais lui, il avait aussi pris la suite des Américains qui faisaient leur cirque, mais en s'y croyant, tandis que lui, c'était avec le sourire. Donc il y avait une certaine bonhomie, une certaine,
ouais,
sympathie.
Ouais, ouais.
Et
ouais.
Puis bah, après le gars, bah voilà, tu cours en 9,58, ouais, je pense que tout le monde s'incline, quoi. Ouais, je pense que.
Tu veux qu'on retarde encore le départ si tu,
ouais,
veux.
Ouais, vas-y, vas-y, tu peux. Ouais, fais tes gestes, ouais. Qu'est-ce... Tu veux courir en mocassin? Bon bah écoute, y a Rodge à côté, quoi.
Ah, c'est vrai, ouais.
Mais si tu veux, c'est ça qui est. Tu vois, en perche, on a eu l'air Bouka, il, ouais, y a Lavillini qui avait pris la suite et qui, ouais, a, en battant le record du monde. Là, on a Duplantis, il y a une vraie continuité. Mais je pense qu'il suffit qu'après, quand Duplantis arrêtera, il suffit, ouais, que le meilleur gars soit juste à 5m95 et puis tout le monde se désintéressera de la
tout
perche.
Le monde se désintéressera.
Parce que quand t'as un gars, ouais, qui a été 1m au-dessus, ouais, bon, bah, ouais, je veux dire, c'est.
Et comme tu dis, c'est 1m au-dessus, on exagère évidemment, non, mais
bien sûr,
c'est,
ouais,
c'est ça plus. Un personnage.
Ah, bien sûr.
Duplantis,
ouais,
c'est un vrai,
ouais,
personnage,
ouais,
qui fait du bien à son,
ouais,
sport, quoi.
Ouais.
C'est,
mais c'est donc, pareil, il a un côté humain, tu vois, c'est comme Marchand, ouais, quoi. Donc Duplantis, tu dis, ça pourrait être mon voisin, ça pourrait être un étudiant que j'ai et tout. Le gars, bon, ouais, tu sens qu'il a, il a quelques qualités, mais.
Ouais, t'as des super voisins.
Ah, bah ouais, ouais, c'est comme ça.
On se rend pas compte, putain. C'est super. On se fait un point Vendée, mon Fred, quand même, quoi.
Important, bah bien sûr,
ouais,
très très,
ouais,
important.
On fait ça,
ouais,
on fait ça, allez, on y va alors. Parce que moi, par la virtuelle, on en est où là? On est dans,
eh
le,
bah,
sud. On est, là...
on est avec Charlie Dalin qui vient de passer le cap Lewin et qui a toujours à peu près là, 250 000 nautiques d'avance.
250, ça fait presque du 450 bornes. Ça,
ouais, c'est ça, ouais, 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 ouais,
ouais,
ouais. Alors, ça, c'est beaucoup et peu à la fois.
Voilà,
hein,
c'est ça. Ça, ça dépend de ta trage, ça dépend de beaucoup de choses.
Et
quoi.
Exactement, comment t'as sollicité le bateau parce que,
ouais,
et le bonhomme.
Et tu sais qu'ils font un truc très bien maintenant sur Virtual Regatta, c'est-à-dire qu'on se fatigue. C'est-à-dire que si dans la journée tu vas 20 fois voir ton Virtual Regatta, tu fais 20 manœuvres différentes, et ben ton petit bonhomme il s'épuise et t'as plus le droit de faire de manœuvres et ton bateau il ralentit.
Faut qu'il aille à la sieste.
Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Et bah, donc du coup, et après tu récupères, dans la journée tu récupères.
Ouais, mais ça se rapproche vraiment de la situation
c'est
réelle.
C'est dingue, c'est dingue. Ouais.
Parce qu'on sait que les gars sont aussi en gestion de leur,
ouais,
leur physique.
Ouais.
Et ils savent que, bah, quelquefois, pour reprendre des termes, ça bastonne un peu, donc ils vont avoir 3-4 jours très très durs.
Ouais.
Et justement, derrière, il va falloir récupérer un peu parce qu'il va falloir faire le bilan du bateau, hein, mécanique, mais aussi le bilan du marin.
Ouais.
Parce que bah, c'est une course au long cours, donc il faut savoir aussi gérer.
Ah, et puis il faut savoir tout faire, tout faire.
Ouais, en fait, ouais, ouais.
Oh. Ah, tu dois être plombier, tu dois être plaquiste, tu dois être tout là-dedans. Là, tu... Pff, ouais,
et je suis franchement, je suis impressionné parce que on a la chance d'avoir des vidéos régulières parce que,
ouais,
ça aussi, c'est le monde de la voile a hyper évolué. Je pense toujours à Titouan Lamazou qui a gagné.
Ouais.
Voilà. Il doit pas reconnaître en fait. Ça, il doit se dire c'est,
ouais,
plus le même sport.
Ouais.
Parce qu'avant,
ils te le disent là. Machin court avec le bateau de Michel Desjoyeaux d'il y a 20 ans.
Ouais.
Bon, bah, attends, c'est le bateau de Michel Desjoyeaux,
ouais,
le mec a gagné. Bah, ils disent on peut rien faire. Je,
ouais,
peux rien faire. Donc moi je suis pas dans la course des autres. Hein.
Ouais, c'est ça qui est assez impressionnant parce qu'il y avait encore des interviews de skipper cette semaine qui disaient que Jean Le Cam faisait une course formidable.
Voilà.
Et
voilà,
quand vous regardez le classement, bah, Le Cam,
voilà,
il est 20e.
Voilà.
Vous dites bon, bah, ils disent, bah non, avec le bateau qu'il a,
voilà,
etc. Ce qu'il fait, c'est fabuleux. Et c'est vrai que pour le grand public, on a parfois du mal à appréhender ça, parce qu'on se dit, bah, il y a une vraie différence, mais il y a une telle différence sur l'aspect
le
technique.
Matos.
Après, il faut aussi savoir le mener, hein, le bateau.
Là,
donc,
oui.
c'est assez impressionnant. Oui, oui. Mais c'est vrai que là, on les voit, les meilleurs, bah, ils sont sur leur fauteuil, on dirait un baquet de F1.
Ouais, bah,
ils sont avec le casque et tout.
À,
et...
à 2 mètres au-dessus de la mer, s'ils sont sur les foils.
Ouais,
là,
et tu te dis, ah ouais, c'est ça la voile. Ouais, c'est vrai que bah, moi, j'ai les souvenirs de Tabarly, donc bah, on n'est plus du tout dans, le,
non,
dans la même dynamique.
Tout.
Après, ça reste fabuleux. Hein, c'est quand même assez, assez impressionnant.
Ouais. Toi, on te paye cher la Tiva là ou...
Ah non non, moi je suis, moi c'est
oh
la mer pour moi c'est un stress.
Ouais.
Déjà quand je nage, si j'ai plus pied, je suis déjà en panique
parce
que j'ai l'impression d'être suivi par les dents de la mer. Quoi.
Ah bah évidemment.
Et en plus,
toi t'as appris à naviguer en plus à Argentré, toi sur le plan.
Saint-Denis-du-Maine, hein, sur un optimiste à Saint-Denis-du-Maine. Pour la petite histoire, tous les Bayonnais connaissent Saint-Denis-du-Maine. L'avantage c'est que tu tombes du bateau, t'as pied. Donc
ouais,
c'est un côté rassurant.
Génial.
Et c'est vrai que c'est la petite école, mais c'est important.
Même pas de gilet sauvetage, tu fais des...
C'est obligatoire, faut jouer. Eh ben, c'est un rôle. Hein,
ouais,
aussi
tu joues le jeu quand même.
Et puis tu vas avec des enfants en bas âge, donc faut leur apprendre tout ça. Mais c'est vrai que... Non, non, la mer, c'est pour ça. Enfin,
mais...
c'est énorme, c'est fabuleux. Ce
Fred, on est mi-décembre, on est fatigué là de notre métier, on attend les vacances. T'imagines là, ils attendent, ils sont dans l'Antarctique là. Ça doit peler, ils doivent être gelés, ils doivent être crevés.
Ah, et puis ils te disent là, ça va pendant 2 jours, c'est bien, mais je me prépare parce qu'il y a une grosse dépression qui va. Quand tu t'annonces, ouais, voilà, il y a des creux de 7-8 mètres, et là, tu te dis, bon, bah, déjà, quand il y a 50 cm, j'ai l'impression que c'est. Il y a une houle
absolue,
de folie, donc
l'horreur absolue. Bravo, bravo messieurs, bravo messieurs. On reste un peu mayennais encore. Bon Fred, on adore la Mayenne, mais là, une fois de plus, l'équipe nous fait du mal. Qu'est-ce qu'on trouve? On parle de nous, hein, on parle de la Mayenne, on parle de Cossé-le-Vivien, on parle de Marie-Jo Pérec. Génial, hein,
une heureuse initiative.
Putain, Marie-Jo à Cossé-le-Vivien,
c'est fabuleux.
Fabuleux. J'ai vu les images, pour le coup, on n'y était pas, mais j'ai vu les images. Il y a tous les jeunes de Cossé, ils sont là, c'est super, ils ont bien fait les choses. Ils ont bien fait les choses, et là,
il y a un petit couac. Il y a un petit couac, c'est que, une belle fresque, malheureusement, c'est le frère de Marie-José Pérec qui a été peint, donc c'est.
Ah, il y en a marre vraiment qu'on parle de notre département. Toujours, tu sais, il y a toujours un truc qui cloche. Merde, il y a plein de choses magnifiques. Bon, là, c'est vrai que la fresque est un petit peu loupée.
Je pense que le graffeur, il doit s'en vouloir énormément. C'est vrai que c'est moche de retenir ça.
Ouais.
Parce que, en plus, c'est fabuleux que Marie-José Pérec se déplace. C'est une immense championne et on ne se rend pas compte à quel point c'est une immense championne. Et c'est vrai que ça fait toujours... Bon, après, il va y avoir des retouches, donc je pense que ça va être rattrapé. Mais, et puis, je pense que, vu j'allais dire, le côté très, très humain de la personne, je pense qu'elle a dû prendre ça avec le sourire.
Mais à Cossé, messieurs, allez à Cossé. Normalement, la fresque n'a pas été modifiée encore. Vous pouvez vous refaire un avis. Et c'est quand même génial qu'elle soit passée. C'est génial qu'elle soit passée.
Ouais, c'est fabuleux. C'est fabuleux qu'elle ait répondu à la demande. C'est assez chouette. Ouais. Une immense championne encore une fois, ça vaudrait le coup qu'on fasse un jour une spéciale sur cette personne parce qu'on se rend pas compte à quel point c'est une
on va
peut tester. Quand il y aura eu le rectificatif sur la fresque, on pourra peut-être.
Je ne reviendrai pas en Mayenne. Moi j'ai décidé, tu vois, j'ai une petite piscine qu'on a tous un peu là, les mini gonflables dans le jardin. Je l'ai appelé Léon Marchand.
On va l'inaugurer.
Éventuellement, Léon, si tu nous écoutes,
s'il veut pas, il reste Manoudou, Alain Bernard.
Voilà, donc si tu peux venir faire un tour, hein, bien sûr, en toute modestie. Fred, on finit avec nos invités de l'année, parce que c'est peut-être notre dernière de l'année. Je ne sais pas si on sera pendant les vacances, les fêtes, c'est toujours compliqué. Donc, nos invités de l'année, c'est parti. C'est toi qui vas tous les trouver. Tu vas être un très bon joueur. Je t'ai droit à des indices par moment, si tu veux.
En cyclisme, Marcel Duchemin.
On a Marcel Duchemin,
énorme.
Qui nous vient de la Baco, peut-être. C'était ça, top. Légende des années 70, légende mayennaise et légende nationale.
Bien sûr, et puis tous les mayennais connaissent Marcel Duchemin.
Super
coureur, super personne, donc une vraie belle
champion
rencontre.
Champion de France, donc amateur à l'époque où le. où le champion, enfin le champion de France amateur était un.
Ah ouais, ouais. Et puis bon, participé aux Jeux Olympiques, fait deuxième de la course de la paix avec. Tu te souviens la petite anecdote, ouais, de toute façon, il fallait pas gagner dans tous les cas.
Super.
Non, non, super bon moment, super personnage,
très très bon,
super personne et puis super personnage.
Ouais. On a qui, Fred? On a de l'art martial.
On a de l'art martial, on a du Viet Vodao.
Ouais, Viet Vodao, tout à fait. Gladys qui était venue nous parler de tout ça avec son mari. Super, alors c'est pareil, ils attendent les inscriptions. Ça marche du tonnerre, je les ai vus. Écoute, figure-toi, à la fin du deuxième set.
Oui, bien sûr, qu'ils faisaient une démonstration.
Il y avait une démonstration, ouais, super sympa.
Sachant qu'ils ont déménagé, ils sont sur Bonchamp maintenant. Le club, les entraînements, c'est sur Bonchamp.
Sur Bonchamp, ouais, très, très joli patelin. Et donc ça marche fort pour eux. Ils continuent les Europes, les mondes et ainsi de suite.
Ah ouais, et
ils te parlent de ça comme si tout était normal.
Et puis, vrai enthousiasme, super passionné. Donc, c'est
passionné,
assez, c'est
exactement. Ouais, passionné. C'est
chouette.
Bah, t'as intérêt là, parce que le couple est passionné, les deux.
Ah
les
ouais. Mais c'est ça. Ouais, c'est très complémentaire.
Là,
puis des gens dynamiques comme ça, ouais, c'est chouette. Ouais.
Allez, bravo, tu l'as eu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu
On a eu la danse.
Le
fondateur de. Alors, je prononce peut-être mal, J2K.
J2K, ouais, tout
ouais,
à
très,
fait.
Très bien.
Notre voisin à la SCOBAM, Baba qui était là.
Ouais, très, très intéressant,
extra,
passionné.
Le gars, ouais. Extra, passionné, passionnant. Des rencontres vraiment super sympas, on adore ça. Bien, mon Fred, qu'est-ce qu'on a? On a du Jeux Olympiques.
On a du Jeux Olympiques.
On a du Jeux Olympiques.
On a du. La marche.
On a de la marche. Gabriel Bordier,
ouais, ouais.
Énorme.
Champion
énorme.
De France des 20 km également,
etc. Les JO, putain, on a un olympique, c'est énorme. Et là, bah, c'est pareil, vous pouvez le croiser en train de marcher à Saint-Berthe, c'est un petit gars de Saint-Berthe, tout va bien. Gabriel Mordier, merci beaucoup à toi, évidemment, d'avoir été avec nous. T'en as d'autres?
On a du futsal, on a fait un point avec les présidents du futsal, bien sûr.
Évidemment, toujours un bon moment.
Pour se doubler Coupe Championnat, plus sa participation en Ligue des Champions. Quoi.
Reste en football, on est Coupe de France.
On est Coupe de France, un grand, grand moment. Ouais. On est du côté d'Ambrière.
Ambrière signée.
Une belle prestation contre Le Mans. Un score tout à fait raisonnable. En progrès.
Exactement.
Puisqu'il s'était déjà joué l'an dernier.
Trois fois moins.
Ouais, ouais. Donc je pense que l'an prochain, c'est bon.
Ouais, l'an prochain, c'est bon. Très bon moment, ça. Ouais. C'est aussi sympa d'aller taper dans les clubs.
Et puis, vrai enthousiasme aussi. Non, c'est chouette.
Très chouette. On a eu. Alors attention, c'est une balle plus grosse. C'est orange. La balle est orange.
Donc le basket.
On a eu basket. Ouais, basket avec Émilien, qui est venu nous parler du basket et de la section féminine, qui regroupe Bonchamp également, l'USL, tout ça.
Ouais,
et il monte un gros, gros club de filles. Là, donc bravo Émilien, complètement dedans. Qui en a eu du handball?
Du handball, on a eu.
Qui on a eu au hand
On a eu. Alors, on a eu plusieurs handball. On a eu spécialiste arbitrage.
Oui, Evelyne qui est venue avec nous parler un petit peu arbitrage.
Voilà, on a eu. Émilie qui nous a parlé du club de Bonchamp.
Du club de Bonchamp, ouais, toujours très bon club aussi.
Ouais.
Et à Bonchamp, on avait fait un petit intermède sur le tournoi de Palais également.
Une première sur Bonchamp. Ouais.
On adore ça. On a du footeux, on a du Stade Lavallois, on a le plus capé du stade
début de saison, en tout début, début d'année pour nous. Ça va en venir, un arrière droit,
Kevin Perrault. Ouais, ouais. Quand je fais les comptes, c'est les Kevin Perrault qui était là. Et super, bah pareil, quoi. Tu dis, t'es en face d'une superstar là.
Ouais, et puis un vrai enthousiasme. Il nous a remémoré notamment avec Anthony Gonçalves le fait qu'ils étaient là pour un peu encadrer. Le groupe,
plus forcément pour prendre la place d'un titulaire,
avec l'idée que il faut des gars d'expérience, ne serait-ce que pour le quotidien, pour l'investissement dans l'entraînement, sérieux et tout,
qui font la transition d'une génération à l'autre
et puis qui ont l'histoire du club.
l'histoire du club.
Donc, ouais, non, c'est important. Ouais. Très bon moment, très très bon moment.
Voilà, des gens bien, plein de gens bien. On a beaucoup de chance, évidemment, sur Sport Épique. On vous fera encore partager des moments, que ce soit avec des superstars, bien sûr, mais avec des gens du local. On adore ça aussi.
Des gens motivés, les sportifs dans
exactement.
L'âme.
Exactement. Quand
des
vous entendez
investis,
ces
ouais.
passions, quand j'entendais donc Baba là, il y a deux semaines,
ah oui,
putain,
ouais,
le mec.
Super,
c'est...
ouais, il te donne envie de danser, même
ah,
quand
ouais,
t'es.
Ah ouais, ouais, fin-toi, vas-y, bah,
un peu moins, même ouais, quand t'es tout. Ouais, tout...
Oui, retiens-toi encore un peu, mais. Ben ouais, c'est super, c'est super. On vous remercie pour cette année, messieurs-là, puisque c'est quand même grâce à vous qu'on est là.
Année passionnante.
On ne sait pas combien vous êtes, on ne sait pas qui vous êtes, mais par contre, on vous souhaite le meilleur. Ça, c'est une certitude. Ne faites pas une baignée d'air, on le répète.
Oui,
tous
voilà.
Les ans.
Attention, c'est pas plus 20 kilos en 3 jours.
Allez trottiner. Et surtout, quand vous êtes en repas de famille, au bout de 4-5 heures, allez prendre l'air. Allez ouais, marcher ouais, un ouais, peu, ouais. Allez marcher avant de vous recoller. C'est important.
C'est très très important.
Ah, c'est génial. Fred, nous on continue, on fait de la course à pied, on
et
fait
ouais,
le,
ouais, ouais, du tennis,
tennis.
On se fixe des objectifs.
A, ouais, c'est génial.
Pelote, ouais, non, faut continuer, faut s'entretenir, il faut se fixer vraiment des objectifs ambitieux.
Des objectifs, vive le sport baïonné et à très bientôt. Peut-être l'année prochaine ou peut-être qu'on vous en offre une à Noël. On verra bien, messieurs, dames, mais on assure le coup. À 2025 et joyeux Noël.
Allez, bonne fin d'année.
Foiré, mon bonne fin d'année. Je veux dire bonne fête. Je veux dire bonne fête de fin d'année. Eh Joël, tu couperas. Tu as vu
génial. Et après t'as enlevé la tête parce que t'es dit, alors là je me rate là.